exceptionnellement une séance jeudi prochain. Il terminera donc l'année, qui sera différente du cycle, puisque depuis 2 ans, nous menons un cycle sur le peuple et la littérature populaire. Ce sera différent, je l'avais expliqué, ce sera pour fêter l'arrivée de l'été. Voilà. Donc jeudi prochain, nous partirons avec Isabelle Avlange à Spa. Isabelle Avlange, mais aussi Madame de Genlis, voilà, et la famille royale, et c'est sur un travail inédit. Et c'est très intéressant, donc je vous incite vivement à venir, même si ce n'est pas forcément ce qui vous intéressait cette année. Hein, c'est un sujet extrêmement passionnant qu'elle va développer devant nous. Et j'avais choisi ça d'une part parce que c'est l'arrivée de l'été, mais aussi parce que ce sera la veille de la fête de la musique. Je trouvais que c'était une idée sympathique de parler un petit peu, débat, etc. à la veille de l'été. Et nous terminerons par un petit pot de l'amitié. Donc ceux qui le souhaiteront pourront apporter de quoi boire et de quoi manger pour que nous partagions la fin de cette année. Donc comme je le disais, voilà 2 ans que nous travaillons sur un cycle qui est à la fois un cycle populaire. On avait commencé ça en liaison avec l'exposition du musée Carnavalet sur le peuple. Et nous avons continué cette année avec la littérature dite populaire, avec plein de guillemets. Je vous la ferai pas mal ce soir hein, de vous dire avec plein de guillemets, parce que c'est compliqué de parler de culture populaire et de littérature populaire. Donc 2 ans que nous parlons de chansons, de caricatures, de romans, etc. Et ce soir, vous allez avoir une interrogation, alors non pas écrite bien entendu, mais orale, pour vérifier que vous avez tous bien compris, en tout cas pour ceux qui auront suivi toutes les séances depuis 2 ans, puisque nous allons revoir des gens dont par exemple nous a parlé Jean-Luc, hein, et dont nous ont parlé Laurent, etc., au cours de ces différentes séances. Donc c'est vraiment pour voir comment vous avez bien intégré tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est que je voudrais aussi, au travers de cette conférence, confirmer tout ce que je vous répète depuis 2 ans lorsque je présente les conférences, à savoir que nous avons une connaissance qui est très partielle et très partielle du 19e, que nous la connaissons, cette culture du 19e, par une légitimation que nous avons eue à l'école de grands auteurs. Or, le 19e siècle, ce n'est pas uniquement les grands auteurs, et j'aimerais que vous compreniez ça. Il y a des choses qui étaient très importantes au 19e que nous avons complètement oubliées, des auteurs qui étaient très importants, une circulation aussi, il ne faut pas s'imaginer que la culture était cloisonnée, il y avait une circulation entre tous les domaines, dont j'espère bien vous la montrer ce soir. Donc ça c'est très important. C'est un petit peu toute proportion gardée, comme si dans 50 ans ou 100 ans, vous aviez des gens qui examinaient ce qu'on raconte à la télévision et qui entendraient parler d'une certaine Nabila. Alors ça vous dit peut-être rien, Nabila, ou alors l'expression « non mais allô, t'as pas de shampoing », ça vous dit peut-être déjà quelque chose un peu plus. Bon, ben cette expression « Nabila, non mais allô », on les retrouvera forcément dans des romans, dans des articles, dans des satires cette année. Et dans 100 ans, les historiens vont s'arracher les cheveux pour essayer de comprendre, de décoder. Ou pire encore, ils ne comprendront pas l'allusion justement, ils verront qu'il y a une Nabila, et ils chercheront sur Wikipédia, puisque Wikipédia a enregistré, et à mon grand regret, ils ne trouveront pas, puisque vous le savez, les personnes qui s'occupent de Wikipédia ont refusé de faire une notice au nom de Nabila. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire bien attention, la culture c'est un ensemble de choses, ce n'est pas si cloisonné que ça, et les gens se servent évidemment, que ce soit dans la culture populaire, de choses qui sont moins populaires, ou inversement, pour les gens dits, d'une culture plus intellectuelle, ils se servent aussi d'éléments dits populaires. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer ce soir à travers une promenade. Je voulais aussi rendre hommage, parce que ça n'a pas toujours été fait au cours de ces 2 ans, pas par mauvaise volonté, mais je voulais rendre hommage aux ouvriers. Puisque vous le savez, cette bibliothèque, elle a été fondée quand même en grande partie par des ouvriers. Or les ouvriers, nous n'en avons pas parlé si souvent que ça. Donc je voulais non seulement vous parler des ouvriers, mais mieux encore des ouvrières, puisque la bibliothèque, je le rappelle, demandait une cotisation aux ouvriers qui était de moitié pour les femmes. Donc les femmes pouvaient venir lire ici. Et ça me paraît important de leur rendre hommage. Même si malheureusement, en réalité, nous savons très bien que les ouvrières n'ont pas constitué évidemment notre premier électorat ici. Mais il n'empêche, il y avait cette pensée très noble que les ouvrières pouvaient venir emprunter un livre, voire même des livres, et qu'elles avaient le droit d'emprunter un roman. Et là aussi, je vais leur rendre hommage justement à travers romans et chansons. Je fais passer le programme de lecture puisque je vous ai parlé de Madame Jarvis, voilà, et je vais commencer avec Jenny l'ouvrière. Alors, pourquoi Jenny l'ouvrière ? Je pense que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes honnête, vous me direz que vous n'avez jamais entendu parler de Jenny l'ouvrière jusqu'ici. Moi non plus d'ailleurs, je n'en avais jamais entendu parler, sauf que, comme je lis beaucoup de textes du 19e, je rencontrais systématiquement, non seulement au 19e, mais aussi au 20e, la mention d'une certaine Jenny l'ouvrière, et tous les gens qui la citaient avaient l'air très familiers avec elle. Donc voilà quelque chose qui me perturbait sérieusement, parce que quand on a rencontré 10 fois, 20 fois, 30 fois Jenny l'ouvrière, on finit par se dire, comme pour Nabila, mais qui c'est ? Donc j'ai voulu en avoir le cœur net et savoir qui était Jenny l'ouvrière. Exemple de citation, c'est Flaubert qui écrit à sa nièce chérie Caroline, et il lui dit « Et le baptême de Mademoiselle Jenny ? Quel nom ! Ça fait penser à Jenny l'ouvrière, heureuse si elle se contente de peu, que je voudrais être ainsi. » Avec là aussi une phrase qui revient sans arrêt, quand on lit les textes du 19e siècle, non seulement on parle de Jenny, mais on dit « Jenny qui se contente de peu ». Beaucoup plus tard, Georges Courteline, dans les ronds de cuir que vous connaissez, décrit ainsi le passe-temps d'un fonctionnaire, et sa belle ardeur de travail tranchée comme avec une faux, il jugea avoir bien gagné le droit à la récréation. Son parc, c'était celui de Jenny l'ouvrière, deux étroites caisses flanquant extérieurement les chambranles de la mansarde, qui étaient son humble bureau, et dans lesquelles, sitôt les primes tiédeurs de mars, il semait le volubilis traditionnel et le classique haricot d'Espagne. On continue. Non seulement on en parle dans du courrier, on en parle dans des romans, mais on en parle aussi, et ça, ça m'a fait très plaisir, chez, vous le voyez, Christophe, hein, l'auteur du Sapeur Camembert. Eh bien, dans l'idée fixe du savant Cosinus, que voit-on ? On voit Cosinus qui fait des expériences et qui arrive dans la chambre de Jenny l'ouvrière. En passant par un point remarquable, et je le souligne, vous y faites bien attention, on va y revenir sans arrêt, il passe par la fenêtre. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure c'est très important. Donc le voilà qui cause une vive frayeur à cette jeune personne et des dégâts importants dans l'immeuble. Remarquez aussi que la jeune personne, on s'attendrait à ce qu'elle soit plus gironde, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure elle n'est pas spécialement gironde, puisqu'elle arrive dans la mansarde d'une jeune fille. On attendait peut-être autre chose. Autre citation, et vous voyez que quand je vous parlais du XXe siècle, c'est que Louis Aragon lui-même, en 1929, dans un poème, dit « Entre deux feux qu'on ait pris entre deux feux, les justes proportions et la grandeur à tout prix, Jenny l'ouvrière et le soldat inconnu, c'est Cornélien au diable. » Alors, je vais arrêter là les citations, hein, je pourrais les multiplier par milliers. J'en ai trouvé des milliers comme ça, et puis il faut dire que maintenant je suis conditionnée, hein, dès que j'en vois une, hop, je la note, mais il y en a vraiment énormément. Alors, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, vous ne connaissez pas Jenny l'ouvrière, et pourtant, vous connaissez une autre jeune femme, vous connaissez, je suppose, Mimi Pinson. Là, si je vous dis Mimi Pinson, ça vous dit quelque chose. Grâce à Brassens, par exemple, hein, dans la supplique pour être enterré à 7, je vous rappelle, quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené, dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus, hangar du 7. Bon, évidemment, avec les rimes qu'il a choisies, ça aurait été difficile de mettre Jenny l'ouvrière, je vous l'accorde, mais il n'empêche, dans notre folklore, dans nos références, nous avons davantage Mimi Pinson. Alors, me direz-vous, des filles du peuple comme Mimi Pinson, une nana sculptée par Émile Zola, avaient peut-être plus de chances de traverser les siècles que Jenny l'ouvrière, on va voir pourquoi. Mais l'effacement de Jenny l'ouvrière, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, et la survie de Mimi Pinson nous apprennent quantité de choses sur le sort, justement, des ouvrières et des jeunes femmes du 19e siècle. Donc, Jenny l'ouvrière, dans les citations qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'elle est célibataire. On apprend qu'elle est ouvrière, couturière, bouquetière. Elle loge où ? Elle loge dans une chambre au dernier étage. Alors ça, c'est une notation extrêmement intéressante. Tout au long du 19e siècle, vous avez peut-être eu à l'école, en cours d'histoire, cette fameuse représentation de l'immeuble, hein, avec les différents étages, de l'étage le plus noble jusqu'à l'étage le plus humble. Pourquoi ? Tout simplement, alors il faut se remettre dans cette ambiance du milieu du 19e siècle. Quand on est dans la dernière chambre, ça veut dire à l'époque, on n'a pas d'ascenseur. On n'a pas l'eau courante non plus au milieu du 19e siècle, il va falloir attendre un petit peu. Donc ça veut dire que tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est déplacement, etc., eh bien, on n'y a pas accès. Et qui plus est, l'hiver, on meurt de froid, l'été, on meurt de chaud. Donc c'est réservé aux bonnes et aux gens les plus pauvres. Et vous avez quantité de chansons dès 1830 qui parlent de ces étapes de la vie. Un peu comme l'édit de la vie au Moyen-Âge, où on voit une femme qui va rencontrer un beau monsieur, qui va loger au premier étage, et puis dégringolade après dégringolade dans son existence, elle va finir au cinquième étage. Vous en avez d'autres, des jeunes filles modestes, qui arrivent à Paris et qui commencent également donc leur existence à ce cinquième étage. Donc, on sait qu'elle est célibataire, qu'elle est couturière. Couturière, attention, ça ne veut pas dire forcément qu'elle travaille dans un atelier. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque, vous connaissez peut-être Marguerite Audoux par exemple, ce qu'elle a raconté, à l'époque, les couturières pouvaient emporter du travail chez elles. Et c'est bien là, finalement, le seul avantage de ce cinquième étage, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'au moins au cinquième étage, elles ont un peu de lumière et ça va leur permettre de faire leur couture près de la fenêtre. On passe à la diapo suivante. Merci. Alors, le portrait que je viens de dresser, si vous connaissez les grisettes, si vous avez vu l'exposition l'an dernier du musée Balzac sur la grisette, pourrait rappeler la grisette, une jeune femme qui vit comme ça au cinquième étage. Alors Jenny, serait-elle une grisette ou n'en est-elle pas une? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va regarder deux images à un cercle d'intervalle pratiquement. Alors on revient sur la première. Vous voyez donc qu'elle est à sa fenêtre. Vous voyez qu'elle a un maintien extrêmement gracieux. Qu'elle a une cage à oiseaux et des fleurs. Un cercle plus tard, toujours aussi gracieuse, vous le voyez, dans sa façon d'être. Toujours les fleurs, toujours les oiseaux. On n'a pas beaucoup bougé. On est passé, vous le comprendrez tout à l'heure, de la chanson au roman. Nous ne voyons rien, absolument rien, de sa chambre. Vous l'avez remarqué, nous la voyons à sa fenêtre, mais nous ne voyons pas l'intérieur de sa chambre. Et vous allez comprendre là aussi pourquoi, très rapidement. Alors, tu peux passer à la diapo suivante. Pour l'instant, nous pourrions penser tout de même que nous sommes en présence d'une grisette. Alors pour faire la différence, on va lire un extrait d'une physiologie, d'un auteur très connu de physiologie. Je pense que vous savez ce que sont les physiologies, grâce à Balzac par exemple. La physiologie, c'était une manière de traiter le corps social et de traiter particulièrement telle ou telle catégorie sociale. Donc là, Louis Huard parle de la grisette. Et que nous dit-il? Une autre passion, mais beaucoup moins indigeste, et que l'on rencontre aussi chez toutes les grisettes, c'est la passion de la giroflée. Il n'est peut-être pas une fleuriste ou une modiste, une lingère ou une couturière, qui n'a entrepris de se livrer à l'horticulture en établissant sur la fenêtre de sa mansarde des jardins de Babylone, contenus dans une caisse de 8 pouces de long et de 3 pouces de large. Et la fleur choisie par la grisette pour embellir sa vie et sa fenêtre est immanquablement une giroflée. Vous voyez, on y revient toujours. On continue. Ici, vous voyez que cette fameuse grisette, toujours avec les illustrations de Gavarni, est en train de coudre, par conséquent, à sa fenêtre. Donc jusqu'ici, on est toujours dans une similitude avec notre fameuse génie, notre ouvrière. On continue. Ce que nous dit Hugo aussi, c'est quand la grisette assise, une aiguille à la main, soupire et de côté regardant le chemin, voudrait aller cueillir des fleurs au lieu de coudre, point de suspension, que se passe-t-il? Ben vous imaginez bien la vie de ces jeunes femmes, assises 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, quand le temps le permet, quand la lumière le permet, près de leur fenêtre, et qui s'ennuient à coudre, qui font toujours ce même travail répétitif. Alors, ces grisettes, elles sont connues sous des surnoms ou des diminutifs. On a évoqué par exemple Mimi Pinson, vous connaissez aussi peut-être Lisette, Rosette. Ces surnoms qui évoquent leur jeunesse, leur insouciance. On leur prête à ces grisettes un amant, voire plusieurs, mais souvent dans une sorte de candeur. C'est-à-dire que la grisette, ce n'est pas une méchante dame, c'est juste qu'elle a envie de s'amuser. Elle est jeune, elle n'a pas des moyens qui lui permettent de se divertir, donc que va-t-elle faire tout naturellement? Elle va glisser sur une sorte de pente qui va faire que, eh bien, peu à peu, elles vont sympathiser avec ses étudiants vont leur offrir un repas, et puis elles ont envie d'un meilleur repas, et puis ils vont leur offrir un bout de tissu, une écharpe, etc. Et voilà comment insensiblement la grisette, évidemment, fait payer ses services. Donc, on trouve une glorification de la grisette dans les années 1850 par les écrivains. Pourquoi ? Tout simplement parce que les écrivains sont les amants de ces grisettes. Donc ils ont tout intérêt à les glorifier, à dire que c'est très bien qu'il y ait des jeunes femmes aussi libres à Paris qui fassent volontiers, non pas commerce de leur charme, mais qui se laissent facilement capturer par ces écrivains et qui partagent donc leurs loisirs. On continue. Donc voilà l'hommage qu'on va rendre à leur côté volage. Vous voyez ici, par exemple, Mimi Pinson, par rapport à Jenny l'ouvrière que nous avons vue tout à l'heure, elle a des formes beaucoup plus épanouies, elle est très jolie, et des formes beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus évocatrices que Jenny l'ouvrière. On continue encore. Voilà ce que dit Béranger, par exemple, de Lisette. « Lisette, ma Lisette, tu m'as trompée toujours, mais vive la grisette, je veux Lisette boire à nos amours. Certains soirs, je pénètre dans ta chambre et sans bruit, je vois par la fenêtre un voleur qui s'enfuit. » Et ça y est, on est dans la différence entre l'ouvrière, Jenny, et la grisette. Jenny, on l'a vu à sa fenêtre. Il n'y a pas de jeune homme qui passe par la fenêtre. Alors là, non seulement il y en a un, mais apparemment il y en a deux même. Donc vous voyez, la différence se fait là, entre le mode de vie de Jenny l'ouvrière et ces fameuses grisettes. Donc, Jenny, eh bien, n'est pas une grisette. Alors, ces femmes-là, ces grisettes, ce ne sont pas des femmes que l'on épouse, et leur chute est de peu d'importance. Elles pourraient même justifier l'agression sexuelle. Je lis une citation. Voilà, donc vous voyez ici ce fameux jeune homme qui se permet de passer par la fenêtre. On continue. Voilà, les étudiants, carte postale de la fin du 19e siècle, les étudiants avec les grisettes, avec une légende qui est très intéressante, 1830, ah là là, la belle époque pour les amoureux, c'est celle où la grisette, bon enfant, se donnait cœur et corps, sans calcul, à l'étudiant. Donc vous voyez une nostalgie, parce que la grisette n'existe plus, beaucoup moins à la fin du 19e siècle, sur ces jeunes femmes qui, sans complexe, sortaient avec les étudiants. Alors, la naissance de Jenny l'ouvrière. Tu peux continuer. Voilà. Je vais demander à notre chanteur pour que vous découvriez la chanson. Voilà, c'était une des surprises de la soirée. Alors, je vais faire cette première chose, c'est vous distribuer. Je vais expliquer, je vais demander une seconde. Vous savez qu'au 19e siècle, on distribuait normalement dans la rue les partitions aux gens, d'accord ? Donc je vais vous distribuer la partition que j'ai trouvée, monsieur Garita. Donc vous allez avoir la partition sous les yeux, alors je l'ai présentée de la manière suivante. Première page, vous trouverez un chromo du 19e siècle, qui est une publicité pour Ricless. Les chromos, c'était ces petites images en couleur qu'on distribuait comme support publicitaire. Aux trois pages suivantes, vous trouverez la partition donc, de Jenny qui a été publiée dans l'illustration en 1895. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est important. On va voir que c'est une chanson de 1847. 50 ans plus tard, on juge encore utile de la publier dans l'illustration. C'est dire son succès, on y reviendra sur un demi-siècle, voire plus. Et à la dernière page, j'ai également mis, vous le verrez, une photocopie d'une carte postale qui est datée de 1908, et la carte postale est datée, elle, quant à elle, de 1905, si mon souvenir est bon, 1903, voilà, où vous trouvez encore Jenny l'ouvrière. Il y avait des séries de cartes postales, fin 19e siècle et début 20e, encore sur le thème de Jenny l'ouvrière. Donc vous allez tous avoir votre partition, de manière à suivre M. Garetta, peut-être même à reprendre le refrain avec lui, voilà, puisque j'avais envie que pour la dernière soirée de ce cycle, on se lâche un peu. Là, on va passer davantage par là, si vous pouvez. On peut y aller.
Voyez là-haut cette pauvre fenêtre où du printemps se montre quelques fleurs. Parmi ces fleurs, vous verriez apparaître une enfant blonde aux plus fraîches couleurs. Voyez là-haut cette pauvre fenêtre où du printemps se montre quelques fleurs. C'est le jardin de Jenny l'ouvrière. au cœur content, content de paix. Elle pourrait être riche et préfère ce qui lui vient de Dieu, ce qui lui vient de Dieu. Voyez dans son jardin, sous la fleur parfumée, entendez-vous un oiseau familier? Quand elle est triste, oh, cette voix d'été, par un doux chant, suffit pour l'égayer. Dans son jardin, sous la fleur parfumée, entendez-vous un oiseau familier? C'est le chanteur d'un génie d'ouvrière, au cœur content, content de peu. Elle pourrait être riche et préfère ce qui lui vient de Dieu, ce qui lui vient de Dieu. Dernier couplet. Oh, malheureux, souvent elle abandonne ce qu'elle gagne, hélas, un peu de pain. La pauvre passe, et comme elle est si bonne, en le voyant, elle n'aura plus faim. Oh, malheureux, souvent elle abandonne ce qu'elle gagne, hélas, un peu de pain. C'est le bonheur d'un génie d'ouvrière, au cœur content, content de peu. Elle pourrait être riche et préfère ce qui lui vient de Dieu, ce qui lui vient de Dieu.
Merci infiniment, M. Garretta, parce que cette chanson, on peut l'entendre en allant à la BNF, intramuros, hein, mais on ne dispose pas d'enregistrement facile à trouver sur Internet. Donc c'est vraiment, merci à vous, parce qu'on parlera d'autres chansons, on évoquera d'autres chansons ce soir qu'on peut trouver facilement sur Internet, mais alors celle-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, on ne la trouve pas facilement. Donc voilà, grâce à vous, puisque vous avez été enregistrée, on la trouvera désormais sur Internet. Bon, alors maintenant, vous avez une interrogation orale, hein, je vous l'ai promis tout à l'heure. Premier sous-entendu, génie ne regarde pas les étudiants, mais qui ? Qui regarde-t-elle ? Ah, vous avez chanté. Hein.
Les pauvres.
Oui, elle regarde les pauvres. Hein. Donc, première remarque importante, vous voyez, ce n'est pas une grisette, puisqu'elle ne regarde pas les étudiants, mais de sa fenêtre, elle regarde les pauvres. Alors que la grisette s'accoude à sa fenêtre et repère le bel étudiant qui pourrait peut-être lui offrir un châle. Donc, première différence. La deuxième, Génie ne mange pas de la galette, comme la grisette qui s'en fait offrir par l'étudiant, mais que mange-t-elle ?
Du pain.
Et vous devriez même me dire que...
Du pain sec,
ou quand elle ne le donne pas aux autres. Hein, parce qu'elle est tellement généreuse qu'elle va le donner aux autres. Donc ça, c'est quand même une sacrée différence aussi. La grisette est gourmande, génie, elle se contente vraiment de peu. La troisième, elle pourrait être riche, dit la chanson, mais elle ne l'est pas. Alors pourquoi pourrait-elle être riche et pourquoi ne l'est-elle pas ?
Parce qu'elle est prude, elle donne tout.
Et puis voilà, elle est prude, alors elle est jolie elle aussi, hein, mais elle ne se donne pas, donc par conséquent, elle pourrait être riche, mais elle ne l'est pas, elle reste pauvre grâce à sa vertu. Donc vous avez vu cette chanson, hein, qui établit un distinguo très net, nous sommes sûrs désormais que Génie n'est pas une grisette, c'est bien une ouvrière prude et chaste. Nous continuons avec la diapositive suivante. Voilà donc une chanson, comme l'a baptisé Léo Laspèce dans Le Figaro, une Marseillaise de l'innocence. J'aime beaucoup ce terme. Alors voilà ce qu'il en dit, hein, dans Le Figaro, je vous lis toutes les citations. Les femmes qui travaillent ne font pas partie de la bohème. Elles ont des moyens d'existence Elle gagne 40 sous par jour à franger des châles, à piquer des bottines, à coller des étiquettes et à coudre des chemises. Toutefois, elles ne peuvent équilibrer leur budget avec d'aussi maigres rentrées et parfois leurs admirateurs sont tenus, comme à la bourse, de solder les différences. Longtemps, j'aime à le croire, la vertu lutte et la fierté se débat. Mais de guerre lasse, on accepte un secours de la main d'un ami, c'est la réponse des primes. On a chanté, sur tous les tons, le couplet suivant, d'une poésie morale et libre à la fois, morale par le but, libre par la rime et la césure, c'est le grenier de génie l'ouvrière, etc. Nous avons longtemps cherché le sens de cette Marseillaise de l'innocence et nous avons ne point l'avoir trouvé. Alors on va y revenir hein, sur tous les doutes qui entourent cette chanson au cours du 19e siècle, en disant mais à quoi ça sert d'être comme génie l'ouvrière. Donc. Alors il n'est pas le seul, on va passer à une autre citation qui est très intéressante, c'est Eugène Labiche, dans une pièce que vous connaissez je pense aussi parce que c'est une des plus connues, ce sont les noces de Bouchancœur. Bouchancœur arrive sur une grande place, c'est un dimanche, et on couronne une rosière. Elle montait triomphalement sur l'estrade, tandis que la musique des sapeurs-pompiers jouait l'air de génie l'ouvrière. Notation très intéressante. Alors en même temps, dans la pièce de Labiche, quand on tombe, on entend en effet l'air de génie l'ouvrière. Vous savez que dans les pièces, il y a marqué sur l'air 2, et là c'est marqué clairement, c'est sur l'air de génie l'ouvrière. Et ça, c'est toute l'astuce des pièces de Labiche qui fait rire, vous le voyez, avec des références musicales. Parce que là, il y a une noce, ce sont les noces de Bouchancœur, mais là, il voit un couronnement de rosières et on entend cette chanson de génie qui est une, si vous voulez, on surajoute quelque chose de parodique. Parce que la rosière plus génie, ça fait beaucoup. Alors, je pense que vous savez ce que sont les rosières. Alors, au 19e siècle, ce sont ces jeunes filles qui s'étaient fait remarquer dans leur village par justement leur chasteté et que l'on couronnait. Tu peux montrer l'image suivante. Hein. Voilà une image d'Épinal sur un couronnement de rosière. Voilà. On pourrait multiplier les images d'Épinal de ce style par dizaines aussi. Et donc, vous connaissez, je pense, le rosier de Madame Husson, qui est passé récemment en adaptation télévisée, de Maupassant. Hein, qui là est complètement parodique aussi, puisque dans le rosier de Madame Husson, eh bien, ce n'est pas une rosière qu'on élit, mais un rosier. Et ce rosier va se conduire extrêmement mal avec la récompense qu'on lui a donnée. Mais c'était classique, hein, vous aviez des caricatures, on montrait les rosières avec des ventres rebondis, etc. C'est une des grosses farces du 19e siècle, hein, le sort de la rosière. Bien. On continue avec ce que raconte donc ici Jules Claretti. Clarity raconte « Oh, le bon temps où ces romances tiraient les larmes des yeux. Peut-être, si on osait les chanter, attendrirait-elle encore ?» La romance de Baratteau fit concurrence, durant les journées de la Révolution de 1848, à l'air populaire des Girondins, qu'on reprenait en chœur dans « Le Chevalier » de Maison Rouge. Donc, Clarity raconte, hein, quelques dizaines d'années plus tard, ce qui s'est passé en 1848, et il dit, voilà, il y avait au Hit Parade deux chansons, il y avait Génie l'ouvrière d'un côté, et il y avait le chœur des Girondins de l'autre. Donc, voici ce chœur des Girondins, tu peux passer à la diapositive suivante, voilà. Vous voyez, c'est donc tiré du Chevalier de Maison Rouge, et c'est un texte extrêmement patriotique, que j'ai mis là à gauche, par la voix du canon d'alarme, la France appelle ses enfants, allons, dit le soldat, aux armes, c'est ma mère, je la défends. Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Nous, amis qui, loin des batailles, succombons de l'obscurité, vouons du moins nos funérailles à la France, à sa liberté. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas tout à fait la vision que nous avons de 1848. Nous avons là aussi des images qui sont un peu fabriquées et nous avons du mal à imaginer que, d'une part, il chantait Génie l'ouvrière et d'autre part, il chantait le chœur des Girondins. Et je vais y revenir là aussi, vous allez comprendre pourquoi. Alors, on vient de voir un nom qui est intéressant, sur lequel nous allons revenir, qui est Baratteau. Alors, pourquoi Génie, en 1848, donc ? Eh bien, pourquoi Génie n'est-elle pas une femme au foyer ? Si la chanson fonctionne, on l'a vu, en opposition à des références implicites à la grisette, la réalité est plus prosaïque. Consciemment ou non, Émile Baratteau a utilisé des textes très connus pour forger sa Génie. J'ai retrouvé deux sources d'inspiration, on peut y aller, qui sont Génie la Bouquetière et Rigolette. Alors Génie la Bouquetière, elle est née sous la plume de Jules Janin, qui lui aussi ne peut pas faire l'économie en 1840 de parler de la grisette, puisque tout le monde en parle, et voici ce qu'il en dit. « Au reste, Dieu merci, cette triste fin n'est pas la même pour toutes ces charmantes filles. Il en est qui se sauvent par hasard, il en est d'autres que sauvent le bonheur, quelques-unes la vertu comme l'entendent les moralistes. Je veux, à ce propos, vous raconter l'histoire de Génie Labouctière. » Et il raconte donc l'histoire d'une Génie Labouctière qui, elle, est modèle, et pose pour un peintre et a une fin édifiante. Donc voilà déjà une première fois où on rencontre, et voyez qu'il y a aussi une homophonie, hein, ce n'est pas Génie l'ouvrière, mais Génie la bouquetière, donc on a bien le même son déjà, la même référence. On continue, deuxième référence, c'est Rigolette. Alors Rigolette, si vous vous en souvenez bien, c'est une des héroïnes des Mystères de Paris, et c'est une des héroïnes qui a le plus plu aux lecteurs des Mystères de Paris, parce que c'est une figure un peu naïve, un peu charmante. D'où ce passage à la peinture, et un tableau qui donc a eu un grand succès au salon, parce que les gens ont été ravis de retrouver Rigolette, qui cherche à se distraire pendant l'absence de Germain. Ce qui est très amusant, c'est que peut-être que Rigolette cherche à se distraire, mais vous le voyez néanmoins, dans l'image, eh bien, on n'a pas l'impression que ce soit une jeune femme complètement dépravée. Elle est en train de coudre tranquillement, elle aussi, à sa fenêtre. Tu peux passer à l'image suivante. Alors, que nous dit Eugène Sue, justement, de Rigolette ? Il faut figurer cette solitude égayée par le gazouillement des oiseaux et par le chant de Rigolette. L'été, elle travaillait sans doute auprès de sa fenêtre ouverte, à demi voilée par un verdoyant rideau de pois de senteur rose, de capucine orange, de volubilis bleus et blancs. L'hiver, elle veillait au coin de son petit poêle, à la clarté douce de sa lampe. Donc vous voyez un texte absolument délicieux. Et loin de se plaindre, cette fameuse Rigolette, eh bien, c'est la joie de vivre. Elle ne se plaint pas de son sort. Diapositive suivante, s'il te plaît. Son interlocuteur dit, enfin bon, c'est bien gentil, mais le poil l'hiver, coudre tout l'été, au coin de ta fenêtre, etc. Elle lui répond, non, je suis heureuse comme je suis, je connais la vie que je mène, je ne sais pas celle que je mènerais si j'étais riche. Tenez, mon voisin, quand après une bonne journée de travail, je me couche le soir, que ma lumière est éteinte, et qu'à la lueur du petit peu de braise qui reste dans mon poil, je vois ma chambre bien proprette. Mes rideaux, ma commode, mes chaises, mes oiseaux, ma montre, ma table chargée d'étoffes qu'on m'a confiée, et que je me dis, enfin, tout ça est à moi, je ne le dois qu'à moi, vrai mon voisin, ces idées-là me bercent bien câlinement. Hein. Et quelquefois, je m'endors orgueilleuse et toujours contente. Et vous voyez que vous retrouvez les mots que vous avez chantés tout à l'heure, elle est contente de ce peu, elle en est heureuse, et tout va bien. On continue ? Alors évidemment, je vous en ai parlé, quelque chose qui a du succès, ça va passer ailleurs. Ça ne va pas forcément rester dans une chanson, ça peut passer au théâtre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur encore. C'est-à-dire que là, on va pouvoir s'emparer d'un thème qui plaît et le mettre au théâtre. Donc voilà, Génie l'ouvrière qui zou part au théâtre.
Contrairement à Nabila.
Voilà, alors je m'excuse de la qualité, là je fais amende honorable pour la BNF, c'est une numérisation dans Gallica. Donc c'est un daguerréotype théâtral, voilà, c'est Génie l'ouvrière. Donc la première scène de Génie l'ouvrière commence inévitablement par Génie en train d'arroser ses fleurs, on ne peut pas faire cette économie, il faut forcément qu'on reconnaisse. Ça, nous évidemment ça ne dit pas grand chose, mais j'ai trouvé dans les romans, maintenant j'ai l'habitude, je vous disais je repère Génie l'ouvrière, mais j'ai même plus besoin qu'on indique Génie l'ouvrière. L'autre jour, pour faire plaisir à Jean-Luc, je lisais de monsieur Dubois-Gobet, c'est ça ?
Oui.
Le crime de l'omnibus. Et il y a une héroïne dans le crime de l'omnibus qui est une modèle d'origine italienne. Forcément, on se dit, une jeune italienne qui arrive à Paris, allons donc, quelle vie doit-elle mener ? Et non, elle arrose ses fleurs. Et ça, c'est une indication simple qui suffit aux lecteurs de l'époque. Comme elle arrose ses fleurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va très bien se conduire. C'est une héroïne chaste. Elle ne va pas se donner à n'importe qui, elle va se marier. Elle va éviter les viols, elle va éviter la promiscuité, elle va se marier. Alors voilà, maintenant, quand vous verrez une jeune fille en train d'arroser des fleurs dans un roman, vous saurez que normalement, c'est une jeune fille très prude. Alors, cette pièce de théâtre, en fait, voilà comment elle nous est décrite par le grand dictionnaire Larousse vers 1875. C'est dire son importance, hein, puisqu'elle est décrite encore 20 ans plus tard par le grand Larousse. Voici ce qu'il en dit. De cette pièce, on ne connaît guère aujourd'hui que la romance devenue populaire de Jenny l'ouvrière que les auteurs y avaient intercalée. Bah tiens, bien sûr qu'ils l'avaient intercalée puisque ça faisait le succès de leur pièce. Hein, ils étaient obligés. Cependant, le drame ne manquait pas de mérite. Jenny voit le même jour tous les malheurs fondre sur sa famille. Son père est atteint de paralysie. Son frère tire un numéro qui va le forcer à partir pour l'armée. Et un ami pour lequel son père a engagé sa signature a fui. Elle n'a plus qu'une pensée, sauver son père de la prison pour dette et sa famille de la misère. Maurice Dornet, un jeune banquier, vous voyez les banquiers n'ont pas changé, qui après lui avoir fait des propositions inconvenantes a reconnu son honnêteté, lui a laissé son adresse en la priant de venir à lui comme à un ami si jamais le malheur l'a frappé. Bon, évidemment, Jenny elle est innocente, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle y court, lui expose la situation et s'évanouit. Lorsqu'elle revient à elle, elle est déshonorée. Quelques jours après, son frère vient lui demander de l'argent pour faire sortir leur père de prison. Elle est obligée de le refuser. Son amant, en effet, est à moitié ruiné. Je vous lis pas tout. Bon, évidemment, comme elle a été déshonorée, elle est enceinte. Le monsieur refuse de se marier. Mais devant le caractère exceptionnel de Jenny, finalement, il se marie. Et la pièce se termine à un moment où elle découvre qu'elle est enceinte. Voilà. Refus de la censure. La censure théâtrale n'a pas voulu qu'on montre Jenny en train d'accoucher. Vous en doutez, un accouchement sur scène, même mimé, ça a été refusé. Donc la seule chose qui a été permise, c'est que Jenny chancelle en sentant bien entendu qu'elle est enceinte. On ne pouvait pas aller plus loin hein, dans une pièce du 19e. On continue. Alors ça peut arriver que ce soit bloqué, je vais vous expliquer. Tu fais échappe et tu reviens dessus, tu fais comme tu peux. Donc je vais vous expliquer. Toute pièce, à partir du milieu du 19e, lorsqu'elle connaît le succès, va forcément donner lieu à des parodies. Donc cette fameuse Jenny est parodiée tout de suite dans les journaux, et en particulier par des journaux comme le Charivari, le Journal Amusant, etc. Voilà, donc on va y arriver, je pense. Oui, c'est celle-ci, la 31. Voilà. Donc parodie, on va parodier quoi? On va parodier d'une part son père indigne, hein, ce père que nous avons vu, qui n'hésite quand même pas, vous vous rappelez du résumé de la pièce, à laisser sa fille aller chez le banquier et qui va être déshonoré. Donc première chose, bah, vous voyez comment est décrit le père, hein, c'est le papa de Jenny l'ouvrière, au cœur content, content de peu, il pourrait être invalide et préfère rester chez soi sans feu. Sous-entendu, ce n'est pas un vrai père, il a laissé évidemment Jenny se prostituer en quelque sorte pour... gagner de l'argent au lieu de faire quelque chose lui-même. Tu continues ? Voilà. Alors le dernier acte, celui que je viens de vous décrire, à toute âme sensible doit apporter un grand soulagement, car si la forme en est parfois risible, le fond en est rempli de sentiments. Pour terminer, poussant un cri terrible, Jenny chancelle au suprême moment, c'est le moutard de Jenny l'ouvrière, au cœur content, content de peu, qui se révèle à son heureuse mère. Et toute cette moquerie qu'on va retrouver évidemment au long du 19e siècle sur cette chanson très édifiante qui entraîne des pièces et des romans non moins édifiants. On continue. Alors, le problème qui s'est posé à moi, c'est, je me suis dit, mais dans le fond, n'y aurait-il pas une vraie Jenny? Est-ce qu'elle a existé? Toutes mes recherches jusqu'à ce jour sont restées vaines. Ceci dit, hein, si un jour vous découvrez qui se cache derrière Jenny l'ouvrière, j'en serais fort heureuse. Néanmoins, j'ai cru que j'avais trouvé la solution, puisque Émile Barateau lui-même écrit un article qui s'appelle « Marie Mancet dans les Ménestrels » en 1853. Et dans cet article, il prétend que Jenny l'ouvrière, c'est Marie Mancet, et il dit « Voilà, à l'époque de la Révolution de février, Marie Mancet, ouvrière en linge, occupait rue de Cléry, une chambre bien simple, où elle travaillait comme une fourmi quand elle avait du travail. » Mais hélas, le travail manquant et la République, quoi qu'elle en dit, ne pouvant pas en garantir à tous, Marie Mancet quitta sa modeste chambre de la rue de Cléry pour aller habiter une pauvre mansarde de l'une des rues du Faubourg Saint-Martin. Et il nous explique qu'évidemment, elle est morte, et basta, elle est partie au cimetière de Montmartre. Première incohérence d'ailleurs, si elle est partie au cimetière de Montmartre, ça veut dire que ce n'est peut-être pas une modeste ouvrière. Alors évidemment, j'ai cherché si Marie Mancet avait bien existé dans les registres d'état civil. Je n'ai pas trouvé de Marie Mancet à cette date-là. Mais des Marie Mancet, il y en a pas mal. Hein. Pourquoi pas, ça pourrait être possible. Mais il faut lire le texte entre les lignes. Je vous rappelle que la chanson a été chantée en 1848, que c'était resté une des chansons symboliques de 1848. Nous sommes en 1853. L'auteur de la chanson veut se donner une respectabilité et craint évidemment pour sa réputation, ça l'embête bien d'avoir écrit une chanson qui est restée symbolique de 1848. Donc vous voyez dans le texte ce qu'il fait. Hein, regardez, la République, quoi qu'elle en dit, etc., etc. C'est la République qui a fait mourir Jenny l'ouvrière, tout simplement. Donc il se redonne une légitimité, une virginité comme ça. Surtout, ce n'est pas moi qui ai écrit cette chanson pour les barricades. D'ailleurs, je l'ai écrite en 1847. Et là-dessus, beaucoup de dictionnaires se trompent maintenant aujourd'hui. C'est vrai qu'il l'a écrite en 1847 et qu'elle a été chantée en 1848. Donc lui se réfugie derrière tout ça. On peut voir les positives suivantes. Le genre de chanson que faisait ce monsieur qui en a écrit plus de 3000. Vous voyez les couvertures des partitions, c'est toujours la même chose. Son thème, c'est la solitude, la misère, chanson extrêmement édifiante. Donc Jenny l'ouvrière fait partie de cette immense production, c'est celle qui a eu le plus de succès. Mais il écrit vraiment, vous le voyez, toujours pour le même public, ça marche. Donc pourquoi s'arrêter, bien entendu. On continue. Alors, évidemment, maintenant, il faut s'intéresser à cette fameuse Jenny, puisque je vous l'ai dit, elle est citée tout le temps, mais elle devient du même coup une figure repoussoire, une figure mensongère. Quand on parle de Jenny, c'est pour s'en moquer souvent. Non pas pour dire « Ah, c'est bien Jenny », mais pour dire « Mais c'est quoi cette Jenny ? Comment est-il possible qu'une fille aussi jolie garde sa virginité, continue à coudre 12 heures par jour, etc. ?» Donc c'est devenu une figure de moquerie. Première diapositive, voilà. Donc vous le voyez dans le journal amusant, avec un texte de Willy. Willy, vous le connaissez tous, hein, c'est le mari de Colette. Voilà. Les plantes sont très sensibles à la musique, à la délicate romance de Jenny l'ouvrière, et tout indiqué pour les réserver. Donc, texte de Willy très moqueur. Et vous voyez que la caricature avec de Benjamin Rabier, excusez du peu quand même, oui, la caricature va dans ce sens. Jenny n'est pas, vous le voyez, un sexe symbole dans cette caricature, bien entendu. On continue. Autre référence à Jenny l'ouvrière, ici vous avez une grande cocotte, alors c'est dans le journal amusant, cette grande cocotte, première image, vous le voyez, elle est en train de se promener avec des belles toilettes, etc. Tout ça, ça sent la fête, ça me dégoûte, demain, en tenue de Jenny l'ouvrière, je vais passer 8 jours chez mes bons parents. Et là, je reprends le costume de jadis, je cause avec les paysans. Alors, vous voyez cette espèce d'opposition, évidemment, Jenny l'ouvrière servant uniquement de prétexte. On continue ? Alors, j'ai intitulé ceci « Ouvre la fenêtre ». J'ai repris, vous le voyez, un certain nombre d'images que vous avez déjà vues en opposition. Hein, la fenêtre qui s'ouvre quand on est une grisette, Rigolette, bien sage. Un autre genre de génie bien sage pour d'autres raisons. Ici, pour Cosinus, je vous ai donné la suite. Vous voyez que Génie, tellement brave, s'est ému du sort de Cosinus et l'a mis dans son lit. On en pensera ce qu'on voudra, hein, évidemment. L'image n'en dit pas plus, elle est dans le lit. En fait, la fenêtre a une symbolique, vous vous en doutez, hein, depuis le 17e, 18e dans les peintures, et ça va continuer au 19e siècle, très importante. C'est une manière de figurer la sexualité. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, donc la fenêtre va évidemment, selon le point de vue où l'on se place, symboliser soit la virginité, soit la perte de la virginité. On continue. J'espère que vous connaissez cette chanson qui s'intitule « Ouvre la fenêtre ». Alors, elle date de 1930, elle a été reprise, alors là, celle-là, vous la trouverez partout, elle a été reprise par les Charlots, etc. Et elle m'intéresse parce que c'est une chanson qui est calquée sur les chansons du 19e siècle. En fait, au 19e siècle, je vous ai parlé tout à l'heure de censure au théâtre, il y a aussi une censure pour la chanson. On en avait parlé hein, dans la conférence, les deux conférences qu'on avait eues sur la chanson. Il y a une terrible censure. Donc, que font les gens qui veulent contourner la censure ? Soit ils font des gestes. Et ces gestes, évidemment, les censeurs qui ont lu le manuscrit ne les ont pas vus. Soit ils font des jeux de mots qui permettent, évidemment, d'aller plus loin. D'accord ? Donc ici, on va jouer sur les rimes et on va jouer, évidemment, sur une coupure qui permet de dire quelque chose. Enfin, en tout cas, tout le monde comprend. Là, je vous ai mis le couplet vraiment le plus sage d'une chanson qui est extrêmement grivoise et qui est reprise en chœur dans les années 30. Mais on a le même type de chanson au 19e siècle. Alors, c'est comment ? Est-ce que quelqu'un la connaît ici, non ? Alors, ça donne ceci à peu près. Il paraît même qu'aujourd'hui, oui, sans qu'elle rougisse d'émotion, non, à la lisière du village, il lui ravit son plus. Et là, normalement ?
Sauvage.
Oui, mais on ne le dit pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quelqu'un qui crie, soit c'est la personne qui chante, soit c'est quelqu'un d'autre. Ouvre la fenêtre, qu'on respire un peu. et c'est toute la chanson, et voilà. Et on reprend, non pas avec la rime qu'on aurait dû avoir, mais cette fois-ci avec la rime qui va avec qu'on respire un peu. Son plus innocent aveu. Et toute la chanson est comme ça. Alors, je ne vous dis pas, il y a des rimes avec Cénobite, etc. Et ça permet de transformer une chanson, mais en apparence, bon, évidemment, les censeurs ne s'y trompaient pas, mais en apparence, elle est lisible encore. Et vous avez donc cette fameuse ouverture de fenêtre. On continue. D'où les moqueries sur Jenny l'ouvrière. La première, par exemple. « Mets-toi, ma vieille, avec ton cœur content, content de peu, tu me fais l'effet de feu Jenny l'ouvrière, qui était une simple petite dinde et pas républicaine pour Aliard. » Premier reproche à cette chanson, c'est une chanson non républicaine sur une fille qui est une dinde, vous voyez, 1871. Ce n'est pas par hasard. Deuxième, vous avez des raisonnements, la Jenny l'ouvrière, on entend de ces choses-là l'ambigu. Alors pourquoi l'ambigu? Parce que justement l'ambigu joue ces pièces de théâtre-là. Je vous croyais plus intelligente. Troisième citation, on retrouve la biche et les noces de bouche en cœur. L'excitation qui monte avec Jenny l'ouvrière. Vous voyez, c'est l'effet paradoxal. Ça aurait dû être une chanson chaste et prude, mais le fait d'entendre cette chanson, que vous dirais-je? Ce discours rural, la vue de cocotte, les sapeurs-pompiers, l'air de Jenny l'ouvrière. J'étais pincée, un feu inconnu circulait dans mes veines. Voilà qu'il est en train de tomber amoureux, tout simplement parce qu'il a entendu une chanson qui, normalement, aurait dû lui faire l'effet inverse. On poursuit? Alors, une caricature que j'adore. Jules Simon a écrit un ouvrage qui s'intitule « L'ouvrière ». Jules Simon est quelqu'un qui s'intéresse au peuple, mais qui en même temps est très moralisateur. Et par conséquent, Jules Simon a fait tout un discours sur l'ouvrière qui, évidemment, a indisposé une partie des gens qui l'ont lu, d'où cette caricature. Je vous lis une critique du Figaro en 1878, au milieu d'excellentes choses qu'il est tout naturel de lui entendre dire, puisqu'il est l'auteur d'un volume intitulé « L'ouvrière », et qu'en raison de cette œuvre, on l'a même appelé quelquefois « Jenny l'ouvrière », M. Jules Simon a donné un conseil irréprochable en lui-même, mais dont l'opportunité ou l'opportunisme nous ont étonnés et semblé médiocres. Il a vivement conseillé à ces dames de ne pas se borner comme existence privée à ces unions qui peuvent présenter de très bonnes conditions de constance et de durabilité, mais qui n'avaient pas la majesté de l'union légale de l'homme et de la femme. Vous avez bien compris, hein, Jules Simon explique que l'ouvrière ne doit pas vivre, comme on le disait à cette époque-là, à la colle, mais qu'elle doit rester chaste. Et par conséquent, eh bien, on le caricature en Jenny l'ouvrière, tout simplement. Ça lui est pas là. Donc vous voyez, hein, l'air du refrain de Jenny l'ouvrière, Jules Simon, auteur de l'ouvrière, au cœur hélas plein de soucis, certes pourrait n'être rien, il préfère être ministre aussi. On continue. Alors l'aventure de Jenny ne s'arrête pas là. À la fin du 19e siècle, ça va se transformer en un roman de 800 pages. Alors vous ne vous en étonnerez pas, puisque nous avons appris que les romans étaient en plusieurs livraisons, donc on tire sur la ficelle, il y a des livraisons, encore des livraisons, toujours des livraisons, et ça donne un énorme pavé avec un ramassis de toutes les situations romanesques qui peuvent exister à l'époque. C'est-à-dire que c'est un très mauvais roman, mais ça va plaire. Que nous n'avons pas ici, je tiens à le souligner quand même, nous n'avons pas Jenny l'ouvrière sous forme de roman dans notre bibliothèque. Première image, voilà, donc ça c'est l'affiche pour vendre évidemment Jenny l'ouvrière. Alors, très intéressante cette affiche, elle fonctionne évidemment sur le binôme, le mal, le bien. En haut, vous avez la personne qui a adopté Jenny, en bas, vous avez l'épouvantable monsieur qui l'a kidnappé. D'accord ? Donc vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes, bien entendu, hein, c'est pour nous indiquer le bien et le mal, pour qu'on saisisse tout de suite. Alors pourquoi ? Ben parce que Jenny l'ouvrière était une fille de la noblesse, et comme par hasard, la scène se passe en 1848, à la faveur des événements de 1848, elle est kidnappée, et il va s'en suivre, je vous disais tout à l'heure, une kyrielle de situations qui sont l'accumulation de toutes les situations qu'on peut trouver dans les romans populaires, dans les mauvais romans populaires, c'est-à-dire que évidemment on va retrouver qui l'a échangé, qui ne l'a pas échangé, de qui est-elle la fille, son berceau va tomber sur un bateau, elle va être kidnappée par des gitans, enfin vous voyez, donc, il faut occuper 800 pages en même temps, donc c'est normal. Voilà, tu passes à l'image suivante s'il te plaît. Voilà, donc là j'avais grossi un petit peu encore. Voilà, vous voyez bien l'opposition, donc les barricades, qui font penser évidemment à la chanson de Génie. On continue ? Si tu peux. Voilà. Alors, voilà Génie devenue grande qui ne sait toujours pas qu'elle est une fille de noble. C'est devenue une jeune fille irréprochable. Voilà. Elle a été bien élevée, elle a eu la chance de tomber dans une excellente famille. De gens modestes, mais qui la bichonnent, qui l'entourent, etc. Et alors regardez, ce qui est très intéressant, c'est son maintien. Tout dit, dans les phrases du roman, mais aussi dans l'image, qu'en fait, elle ne le sait pas, mais déjà, elle se tient comme si elle était de la noblesse. Vous voyez, hein, c'est pas la couturière ordinaire. Elle est en train de coudre, alors évidemment, elle a sa fenêtre, il y a les oiseaux, etc. Vous retrouvez en bas la scène dont je vous parlais, hein, quand son berceau kidnappé est tombé sur un bateau, etc. On continue ? Voilà, toujours pareil, elle est en train de tomber amoureuse. Alors, il y a une fille du vrai peuple à son côté. Regardez la position de la fille du vrai peuple. Hein. Elle ne se tient pas pareil, elle ne se tient pas droite. Et puis, elle est en train de lui souffler des choses pas très bien. Hein. Elle est en train de lui dire qu'elle pourrait peut-être, évidemment, se laisser aller à avoir un commerce avec ce jeune homme. Et vous voyez l'attitude de Génie. Non, 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 il n'est pas question. Je suis amoureuse, mais bon, on continue. Même chose, hein. Le jeune homme vient frapper à sa porte. Vous voyez son attitude. Elle va fermer la porte. Donc, il aurait pu essayer de passer par la fenêtre, ça aurait été la même chose. Hein. On est toujours dans la même symbolique. Il n'en est pas question. On continue. Voilà, vous voyez. Il est même obligé, dans un des épisodes du feuilleton, de louer l'immeuble en face pour pouvoir l'avoir à sa fenêtre. Hein. C'est vous dire s'il est amoureux. Et regardez cet air qu'elle arbore. Hein. Elle est en train de le dédaigner, hein, de le snober. Toujours pareil. Alors non, elle est amoureuse, mais elle ne le montrera surtout pas. On poursuit. Alors, les derniers avatars. Je vous ai dit... Mimi Pinson et Génie, c'est pas la même chose. Déjà, rien que dans le prénom, on le voit. Génie, ce n'est pas une contraction, je vais faire remarquer tout à l'heure, ce n'est pas Mimi. Vous connaissez hein, la chanson d'Aristide Bruant, par exemple, Mimi Pot de Chien. Donc ce n'est pas une contraction. Et ce qui est intéressant, si on regarde bien, c'est quand même, on a l'impression que ça symbolise quelque chose d'un peu religieux, peut-être. Hein. Génie, Jésus-Christ, enfin, on peut imaginer plein de choses. Ça reste un prénom extrêmement symbolique. Vas-y. Alors, je vous le disais d'abord, vous l'avez avec les partitions que je vous ai données, ce qui est extraordinaire, c'est la longévité de Génie, puisqu'elle est née en 1847. Vous avez vu tout à l'heure, on la retrouve chez Arago en 1929 quand même. Hein. Donc, pratiquement pendant 75 ans, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les gens savent très bien, quand on parle de Génie l'ouvrière, ce que c'est. D'où ses cartes postales, ses chromos, etc. On continue. Alors, quelque chose qui m'a fascinée, il y a même eu une œuvre de Génie. Vous avez un riche philanthrope qui s'est aperçu que les balcons des ouvrières, à la fin du 19e siècle, n'étaient pas décorés. Et il s'est dit, je vais acheter des graines et on va les distribuer pour que les jeunes filles puissent avoir un balcon comme Génie l'ouvrière. Donc, ça s'appelle l'œuvre de Génie. Paris adore les fleurs, il les aime plus qu'il ne les aima jamais. Le goût du bien-être se développe et le culte de la fleur est une des formes les plus raffinées et délicates du luxe. La fleur, c'est le sourire de la maison et de la maisonnée. Il y a quelque temps, un philanthrope, M. Eugène Figuière, s'intéressa au jardin des ouvrières. Il aperçut au bord d'une mansarde une fillette qui chantait, en arrosant un pot de fleurs. Si toutes les ouvrières avaient un parterre pareil, elles travailleraient. Et voilà comment... Évidemment, on arrive à l'œuvre de Génie l'ouvrière. Alors regardez, ces photos sont extrêmement intéressantes. D'après tous les articles que j'ai lus, c'est par milliers que les jeunes femmes se sont précipitées pour obtenir donc des graines, des pots de fleurs, etc. Tu peux passer la seconde photographie, s'il te plaît. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc évidemment, avec toute la publicité qu'on peut avoir à l'époque.
Hein. C'est la République.
C'est début 1902, si mon souvenir est bon.
Et c'est la République.
Oui, tout à fait. Vous voyez, je ne sais pas quelles sont les estimations de la préfecture et des organisateurs, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a énormément de monde sur cette place. Et que, vous voyez, c'est au recul. Et combien ça a été une passion. Donc les articles décrivent ensuite, évidemment, les jeunes filles en train de planter leurs fleurs, etc. Il y a des remerciements dans les journaux de ces jeunes filles qui disent « Voilà, ça a changé ma vie, j'ai pu avoir des fleurs à mon balcon, etc. » Et on va même avoir un château de Génie l'ouvrière pour certaines ouvrières à la retraite. Alors là, j'aimerais bien là aussi que quelqu'un un jour fasse des recherches là-dessus, parce que ça me paraît extrêmement intéressant de voir tout cet engouement qu'il y a eu encore au début du XXe siècle autour de Génie l'ouvrière. Et ça montre quelque chose de très important à mes yeux, c'est qu'on a vu cette espèce de moquerie qu'il y a autour de la figure de Génie l'ouvrière. Mais cette moquerie, elle vient sous les plumes de certaines personnes, alors soit parce qu'ils estiment que c'est une manière d'endormir le peuple, de l'empêcher de se révolter peut-être. Mais je pense profondément que les ouvriers aimaient ça. Alors il faudrait décoder pourquoi, mais qu'ils étaient attachés, eux, à cette figure-là de génie, de cette jeune femme qui ne cède pas. Donc il y a quelque chose de très important, me semble-t-il, là-dessous à étudier. Je ne sais pas comment, parce que les témoignages des ouvriers, c'est difficile à retrouver par essence. Sauf que, par exemple, on a des carnets de chants qu'avaient les femmes du peuple, celles qui ne pouvaient même pas se payer les partitions, et on voit dans ces carnets de chants, Génie l'ouvrière arriver hein, dans les 10 chansons qu'elles avaient notées. Donc c'est une indication, c'est une chanson qui est aimée, tout simplement parce qu'elle met en scène une certaine catégorie de population. Tu peux continuer, s'il te plaît ? Alors Mimi Pinson, elle. Ben, Mimi Pinson, vous le voyez, on a fondé un conservatoire en 1902, Mimi Pinson, puisque c'est le symbole de la jeune fille qui chante. Il y a eu fondation pour des jeunes filles qui souhaitaient chanter et à qui on a dédié donc un conservatoire. Bon, évidemment, parce que jusque-là, c'était plutôt réservé à une élite. Là, vous avez des jeunes filles du peuple qui peuvent aller chanter au conservatoire de Mimi Pinson. On continue. Alors, je voulais vous montrer cette image parce qu'elle me paraît assez extraordinaire aussi. Hein. Nous sommes en 1927. Forcément, Génie l'ouvrière, elle change. Hein. Et vous le voyez ici, je la trouve très jolie. Avec tous ces ustensiles qui sont toujours les mêmes en définitive, hein, vous voyez, le cordeau, l'arrosoir, le sécateur, sauf que sa coupe de cheveux et sa façon d'être habillée sont très années 20, années 30. On poursuit.
Les accessoires aussi, ils sont pas
oui,
pareils.
Oui, bien sûr. Voilà, alors j'aime beaucoup cette caricature du journal amusant. Une pensée à Mimi Pinson, à Génie l'ouvrière, la blonde dactylo les a tués. Je trouve ça extrêmement intéressant comme tournant social, vous le voyez. Donc on retrouve Génie tout en haut. Mimi Pinson qui est en train de porter, vous le voyez, évidemment, des chapeaux. Et puis la blonde dactylo au milieu. Passage, me semble-t-il, extrêmement intéressant. On continue. L'humanité. Ben, l'humanité aussi a fait référence constamment à Génie l'ouvrière, et pas forcément de manière négative. Ici, quant à Génie, elle ne chante plus, ça perd du temps, et le temps, c'est de l'argent. Je trouve excellente, celle-là. On poursuit. Chansons parodiques. Alors forcément, il y a eu des chansons parodiques inspirées de la chanson de Génie l'ouvrière, qui est une chanson publicitaire. Donc elle était souriante. Alors le refrain était très connu. Hein. Le lendemain, elle était
souriante.
Voilà.
Elle était ses petites fleurs d'enfant.
Sa fenêtre fleurie chaque soir.
Elle arrosait ses petites fleurs d'enfant.
Avec de l'eau.
Voilà. Et alors, est-ce que vous vous souvenez pourquoi était la chanson ? Quel était le but ? Alors, il lui arrive plein d'aventures. Hein. Vous voyez, c'est une brave petite châtelaine enlevée évidemment par des Romanichel, qui la kidnappe, donc il la met dans une chambre malsaine tout en haut de la rue Saint-Michel. Mais elle prend bien son malheur et elle arrose ses fleurs. Bon. Il lui arrive plein d'aventures. Comme elle n'est pas très sage, il la balance dans la rue, elle passe sous le tramway, etc. Et chaque fois, elle se relève. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'elle prend du pyramidon. Équivalent du doliprane ou de l'aspirine, voilà. Donc, c'est une chanson publicitaire, médicale, si on veut. Donc, je trouve que c'est excellent, là aussi, parce qu'on reconnaît hein, la référence, évidemment, à Génie l'ouvrière, et qui est reprise ici. Vous avez beaucoup de chansons dans les années 1920 qui ont des couvertures parodiques, elles aussi. Hein, et vous voyez donc en quoi se transforme Génie l'ouvrière. Vous voyez hein, cette espèce de petite fille un peu niaise avec son pot de fleurs. On continue. Est-ce que quelqu'un connaît cette chanson ? Non ? Alors, chantez remarquablement. Je vous invite à là aussi à aller sur internet à chercher par Michel Bernard.
Alors, ça donne. Avoir une connexion maintenant, je crois.
Oui, je ne vais pas l'avoir. Ça. Donc, ça donne pas loup vermeil, brune blonde, bébé mignon, dans les larmes, ça vient au monde. Et là, tout le monde doit reprendre en principe le refrain. Cher Aguignon, ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. Et voilà, alors c'est une chanson pédagogique. Pourquoi ? Parce que Jules Jouy fait partie de ces chanteurs de la butte noire qui s'indignent de toutes ces chansons pour ouvrières et qui dit voilà, il faut écrire un autre type de chanson pour que le peuple prenne conscience de sa misère. Mais aussi parce que la chanson, c'est un vecteur. Il sait, voilà, le peuple va écouter des chansons. Donc c'est ce vecteur-là, il le faut dans les journaux, il faut leur distribuer des partitions, etc. Et il faut qu'ils chantent, et il faut qu'en chantant avec ce genre de refrain, ils prennent conscience de leur sort. Donc ça continue. À 15 ans, ça rentre à l'usine, sans éventail, du matin au soir, ça turbine. Cher un travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole, quand c'est giron, dans un guet-apens, ça se viole. Cher un patron. Vous voyez, bon. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin où la dernière strophe, parce que Jules Jouy était très intéressé de manière un peu ambiguë par ce qu'écrivait Zola, cher à Macquart. Donc, bien entendu, Macquart étant dans les romans zoliens la figure de l'exploitant. Donc voilà le genre de chanson, il ne faut pas l'oublier, qu'on peut trouver aussi par opposition à Génie l'ouvrière. Et alors je voulais terminer sur une dernière chose, alors je peux pas, là aussi je vous incite, si vous avez internet chez vous, à aller ce soir voir des extraits de Sous les toits de Paris, qui est quand même un film qui repasse régulièrement de toute façon, il est repassé la semaine dernière sur les chaînes câblées, qui est un film extrêmement intéressant. Et puis c'est aussi pour terminer, vous rappelez, on a parlé d'affiches de films avec la communication de Rambille, qui nous avait montré le passage entre les affiches de romans et les affiches de cinéma. Alors ça, c'est un film absolument passionnant parce que nous sommes en 1930 et René Clair va passer du cinéma muet au cinéma parlant, avec donc des séquences où on alterne évidemment du cinéma muet et du cinéma parlant. Or, quand on a le cinéma parlant, qu'est-ce qui se passe? On chante. Et on va chanter une chanson qui va devenir très célèbre, qui s'appelle « Sous les toits de Paris ». Vous connaissez peut-être là aussi, Monsieur Garretta ?«
Sous les toits de Paris ». Mais après, je ne sais plus.
Voilà.
« Lorsque descend la nuit ». Peut-être des courants d'air où l'on ne fait pas cher.
Bravo, j'aurais dû vous apporter ma question. Génial. Alors, justement, ce refrain va être obsessionnel dans le film. Pourquoi? Parce qu'on commence par une scène où vous avez une jeune femme. Alors, on voit les toits de Paris, puis on descend. On voit une jeune femme qui s'appelle Paula, qui est ici, qui est roumaine. J'ai vérifié, on voyait, elle est roumaine. Donc c'est une jeune roumaine qui vient d'arriver à Paris, donc forcément elle est logée au cinquième étage. Et cette roumaine entend une chanson, elle va descendre dans la rue, et c'est là qu'elle va faire la rencontre de son futur amant, qui a également un ami, lequel deviendra aussi l'amant de la jeune femme suite à des péripéties que je ne vais pas vous raconter. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc ce jeune homme distribue les chansons et elle va commencer à chanter cette fameuse chanson « Sous les toits de Paris ». Et on va voir donc les gens distribuer les partitions, on va voir les gens chanter et on voit tout autour le mélange des catégories sociales qui sont descendues dans la rue et qui vont chanter cette chanson et qui ensuite remontent dans leurs appartements et on retrouve cette distinction sociale dont je vous parlais tout à l'heure et qui est très amusante dans le film, c'est-à-dire qu'on voit qu'à tous les étages, ça chante et ça chante le même refrain obsédant. Donc ça peut le chanter au piano parce que voilà, on est un peu plus riche, on a un piano, ou on peut le chanter dans sa mansarde parce que là, on n'a que sa voix et on n'a même pas acheté la partition. Voilà. Donc, tu peux revenir à l'image, s'il te plaît, parce que je crois que c'est mort pour le internet. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer l'image parce que c'est très intéressant. Paula, vous le voyez, donc vit sous les toits de Paris. Hein, pour l'instant, là, sur l'affiche, la fenêtre est fermée, mais ensuite elle sera ouverte. Parce que Paula se donne à ce premier jeune homme, après une lutte évidemment honorable, hein, mais elle va se donner un premier et un deuxième. On est encore dans les années 30, on ne peut pas montrer d'actes sexuels au cinéma, bien entendu. Donc on va montrer quoi? On va montrer la jeune femme qui lutte la veille au soir parce qu'elle est obligée de partager son lit avec le jeune homme, donc elle va lutter pour ne pas passer à l'acte sexuel. La scène se termine. Et le lendemain matin, on les voit tous les deux se lever et on voit un miroir brisé. Vous voyez toujours le même symbole, hein, évidemment, et la fenêtre est ouverte. Ce jeune homme achète des fleurs à la bonne femme, donc on va retrouver la symbolique des fleurs de Génie. Mais comme il est pris dans un mauvais coup, il est arrêté par la police et le film insiste énormément sur ce bouquet de fleurs qui est par terre, qui est fané. Et vous voyez que si Paula avait gardé sa virginité comme Génie, il n'y aurait pas un bouquet de fleurs par terre dans la mansarde, mais bien entendu, il y aurait des fleurs sur son balcon. Donc toute cette symbolique, hein, vous le voyez, est très importante, parcourt comme ça tout le 19e et le 20e siècle. Ce n'est pas une symbolique futile, c'est quand même le sort de centaines de milliers de femmes qui est abordé à travers ces différents types de chansons, ces différents types de romans et ces différentes pièces de théâtre. Et ça, ça amène évidemment une réflexion. C'est-à-dire ces jeunes femmes qui arrivent dans ces villes et qui sont happées par cette vie où il est très difficile de résister. Et là, on est dans les hauteurs. Alors, ce qui m'intéresse, on pourrait peut-être en dire un mot tout à l'heure. Mademoiselle travaille sur des romans que j'aime beaucoup, qui sont des romans d'Émile Gaboriau. Et elle a travaillé plus particulièrement sur un roman qui s'intitule Les Petites Ouvrières. Voilà. Où là, on est dans tout ce qui est souterrain. Et il y a un passage comme ça, au 19e siècle. On va passer des mansardes à cette ville tentaculaire, comme disait Vera Ren, où en fait tout ce qui est sombre, tout ce qui est souterrain va corrompre les gens. Par exemple, Nana, il y a une parodie de Nana de Zola, où dans cette parodie, elle finit dans un égout, tout simplement. Il y a son cadavre qui... Alors vous savez que Nana déjà elle finit mal dans le roman de Zola, puisqu'elle meurt de la petite vérole. Et dans la parodie, elle meurt dans les égouts gonflés, elle explose, etc. Vous voyez, et c'est la fin symbolique de ces femmes qui se sont, soi-disant, mal conduites. Mais la fin des femmes qui se sont bien conduites n'est pas meilleure. D'où, je vous le disais, cette ambiguïté par rapport à cette chanson. Qu'est-ce qu'elle symbolise exactement? Pourquoi est-ce qu'on l'aime autant? Qui l'aime, cette chanson? C'est tout un débat. Vous avez vu qu'on s'en moque, mais en même temps, il y a beaucoup d'affection dans cette moquerie. Donc là, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas juger. Je peux juste vous dire, voilà, on parlait beaucoup de Jenny l'ouvrière. Voilà pourquoi on en a autant parlé. Après, savoir exactement ce que les gens y trouvaient, c'est plus compliqué à déterminer. Merci. On pourrait reprendre le refrain de Jenny pour conclure notre site.
Juste le refrain.
Le refrain, si vous voulez bien, monsieur Garetta.
Je prends donc la fin. C'est le jardin de Jenny l'ouvrière, au cœur content de feu. Elle pourrait être riche et faire ce qui lui vient de Dieu, ce qui lui vient de Dieu.
Donc je vous incite vraiment à aller écouter toutes ces chansons, que ce soit Nini Potchien à la Bastille, là aussi c'est tout près d'ici, la vie de Nini Potchien. Allez écouter Michel Bernard, surtout dans la chanson de Jules Jouy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment une interprétation remarquable qu'elle fait a cappella de cette chanson et qui est très très belle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Les références à Jenny l'ouvrière que vous avez choisies, elles sont chez des auteurs masculins. Est-ce que vous en avez trouvé des fois
malheureusement
chez des auteurs féminins?
Malheureusement non, et c'est bien ce qui m'intéresserait justement. C'est une excellente remarque. Ouais. Pas du tout. Et pour moi, c'est un sujet de perplexité.
Vous avez fini?
Non. Notre réflexion, je vous disais, on la présente comme assez prude et chaste.
Oui.
On voit tout le moralisme fort du 19e siècle. Oui. La vertu ouvrière, c'est la seule richesse du pauvre. Tout le malthusianisme qu'il doit y avoir aussi
bien sûr.
Le discours. Elle est quand même, dans les représentations, par rapport à la norme du 19e siècle, elle est quand même légèrement vêtue finalement.
Elle est légèrement vêtue parce que d'une part, bien qu'elle soit couturière, elle ne peut pas être habillée. Voilà, elle n'a pas de quoi s'habiller. C'est justement pour ça que on devient grisette. On devient grisette pour avoir un châle, etc. Donc on est peu vêtu, mais on est vêtu dignement. Voilà, on l'a vu. C'est pas provoquant. D'autre part, il faut bien montrer, et je pense que c'est intéressant, c'est bien dans un souci malthusianiste, bien qu'elle soit jolie. Alors après, dans les parodies, elle ne l'est pas. Mais là, bien qu'elle soit jolie, elle résiste. Et c'est d'autant plus méritoire. Mais le souci est effectivement malthusianiste, parce qu'on sait ce que deviennent ces filles qui se font engrosser et que les hommes quittent. Enfin, c'est le sort de beaucoup de femmes du 19e siècle. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit jolie, à mon avis. Ça serait moins probant si elle n'était pas jolie.
Voilà. Bien sûr. Justement, chez Galoriou, il y a un personnage, c'est une Lorette, qui s'appelle Jenny. Ouais. Donc, je pense que j'imagine que bon, dans la littérature populaire, il y a souvent des personnages. Ce serait intéressant de voir s'ils ont donné ce nom, justement, comme Galoriou le fait.
Oui, tout à fait. Alors, j'en ai trouvé, oui, déjà, mais ouais. C'est pas toujours trop bon, là, ça dépend, parce que c'est un prénom qui était pas mal porté, finalement.
Attendez, je m'as bien entendu. Est-ce qu'il y a des génies qui apparaissent avant la chanson, c'est-à-dire 1837
Non, ça c'est Galoriou, c'est postérieur.
Mm-hmm. Oui.
Donc, faut laisser à Baruto.
Vous avez donné plusieurs citations qui venaient du Figaro. Alors, je voulais vous demander dans quel type de rubrique. On pouvait y apparaître cette évocation de Jésus.
Alors, ce sont des. Comment vous dire. Dans le Figaro, à l'époque, vous aviez en première page des articles, hein, souvent d'hommes, d'écrivains, etc., qui développaient leur point de vue sur telle ou telle chose. Mais attention, ce n'est pas le Figaro d'aujourd'hui. Hein, ça n'a rien
à voir. Non, je m'en doute un peu, justement. Voilà.
Ça n'a absolument rien à voir.
Merci.
C'est parce que je pense que c'était votre deuxième question.
Voilà. Est-ce qu'il y a des choses autour de l'oiseau et de la cage? C'est-à-dire, est-ce que il y a un moment donné, la cage de l'oiseau s'envole?
Alors, dans la peinture, oui.
Dans la carte postale aussi.
Dans la carte postale aussi, oui. Mm-hmm.
Mais elle ne chante pas. Et en fin d'exposé, vous avez cité le chant de Jenny l'ouvrière, mais non, c'est l'humanité, je crois, qui parle du chant. Mais elle ne chante pas, et elle est couche chantée.
Oui, tout à fait. Oui. C'est une bonne remarque aussi. Oui.
Enfin, le modèle, je retiens de votre savante recherche, le modèle le plus évident, ça peut être Rigolette.
Oui, il me semble. Peut-être que Jean-Luc peut nous en dire un mot de Rigolette.
Oui, je confirme certainement ce personnage qui se trouve dans les greniers de jeunes ouvrières. On la retrouve dans un très grand nombre de romans populaires, y compris chez Ponson du Terrail, ça devient un type. Qui est immédiatement reconnue, même si elle ne s'appelle pas Jenny, ni même Rigolette, quel que soit le nom du personnage, dès qu'on a cette image de la jeune fille sous le toit avec sa cage à oiseaux, mais ça dure environ 70 ans, effectivement. Et il y a systématiquement une gravure quand c'est illustré. On pourrait faire d'ailleurs une anthologie des gravures qui déclinent ce thème, ça serait.
L'apparition du prénom. Est-ce qu'on peut essayer de la fixer, du prénom employé dans l'état civil? J'ai une grande-tante née en 74 qui se prénomme Jenny.
Écrit comme ça.
Ah oui, J.E. C'est pas son premier prénom. Hein. Mais un second prénom, et il n'y avait pas de génie précédent dans la famille, donc ça vient certainement.
Certainement, une mode. Alors, je ne sais pas si ça vient d'Angleterre ou pas, ça, je n'ai pas réussi à le déterminer.
Ça a l'air.
D'ailleurs, je sais que la première fois que j'en ai parlé, j'ai dit Jenny, et on m'a dit, mais non, tu devrais dire Jenny. Donc, depuis, je dis Jenny, mais j'aurais eu tendance à dire Jenny.
Il y a aussi Nerval.
Oui, il y a ça.
La période, il y a quand même.
C'est oui, l'anglomanie.
Une anglomanie forte.
D'autres questions?
Ça peut faire l'objet d'un travail, ça, d'une publication.
Oui, j'espère.
D'une étude très intéressante, quand même, je pense. Ouais. En développant un peu, ça serait formidable.
Bah, oui, je sais pas.
si je trouve de l'iconographie ou des allusions, je te les enverrai.
Le symbole de la soumission, quand même. Sur le plan idéologique.
Je vous dis, pour l'instant, ce stade de mes recherches, ça fait qu'un an que je m'intéresse à Jenny l'ouvrière, et puis c'est pas vraiment mes recherches en ce moment, c'est pour ça. Voilà, c'est un peu épisodique, on va dire. À ce stade de mes recherches, je ne sais pas encore vraiment comment prendre cette figure. Je ne sais pas si c'est. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai essayé de vous le montrer.
J'ai relevé aussi dans la BN, il y a des choses amusantes, il y a la blanchisseuse de banlieue ou la nouvelle génie d'ouvrière.
Tout à fait, oui, exact.
En 1857.
Oui, alors il y a eu une flopée de pièces de théâtre. Oui.
Il y en a une autre, il y en a une autre qui est amusante, c'est le mariage de génie d'ouvrière ou les regrets du fiancé.
Oui, tout à fait.
C'est une chanson apparemment.
Oui.
En 1850, donc c'est parodique certainement tout de suite. Enfin, il y en a d'autres, il y a plein de... Alors, il y a un autre truc marrant, c'est Adolphe Génie, scène de la vie ouvrière. Non, je sais plus. Ah non, Génie, scène de la vie ouvrière. 1864, c'est un roman,
oui,
apparemment.
Tout au long du.
Donc ça se décline.
Ça se décline. Ben oui, c'est toujours la question dont je vous parlais tout à l'heure, des fameux droits d'auteur. Donc je pense qu'il faudrait aussi aller explorer à l'étranger pour voir ce que c'est devenu, sous d'autres noms peut-être, etc. Parce que à cette époque-là, on n'hésite pas à reprendre une chanson, une pièce ou un roman sans donner le nom de l'auteur originel. Et on raconte la même chose. Donc je pense qu'il y a eu des avatars en Angleterre, en Espagne, etc. C'est pas possible autrement.
Alors on sait quand elle naît, 1847, oui, mais quand elle disparaît la dernière fois.
Alors je ne la rencontre plus après 1930 à peu près. La référence d'Aragon est la dernière que j'ai pu trouver chronologiquement. Maintenant,
cela dit,
si vous en trouvez d'autres, dites-le moi. Parce que
le roman de Cardoz a été réédité encore après la Deuxième Guerre, en 1949. Ouais. Bon, je crois qu'il y a eu une image.
Oui. Alors des rééditions, oui, mais des citations. Il me semble que c'est pas, ça fait pas partie de nos références. Quoi.
Je pense qu'en cherchant bien, on trouverait ça dans un des livres d'Ormesson. Jean d'Ormesson a l'habitude de se bercer avec les vieilles histoires de son enfance, etc. Et on doit retrouver une génie ouvrière, mais c'est un impact, isolé.
Oui, oui.
Non, vous avez raison de penser que ça dure jusqu'à la Seconde Guerre. Un peu avant, ça disparaît, votre date 1930.
Le féminisme, le développement du féminisme, je veux dire, la figure perd de sa.
Oui. Et puis il y a aussi, la dactylo.
Bien sûr, tout. La dactylo blonde.
Ça devient totalement obsolète, oui.
C'est le changement d'époque, mais même problème.
Oui, puis la montée des luttes féminines, c'est clair. Je pense.
Mais ça a l'air très lié à la ville de Paris, à l'urbanisme.
Tout à fait. Je crois que l'œuvre dont je vous parlais également était faite à Marseille, il me semble. Je sais qu'il y a une ville du Sud qui a également eu une œuvre de génie pour fleurir les balcons. Mais bon,
je trouve que c'est intéressant parce que la façon dont vous avez présenté tout ça, parce que effectivement, je pense que dans la classe ouvrière, les ouvriers espèrent que leur fille va ressembler effectivement, ça laisse très apprécié cette petite jeune fille.
Oui, cette image d'Épinal, oui.
Élevée, brûlée. Alors, elle est à la fois.
C'est ce souci dont on parlait tout à l'heure, tout simplement de mise en garde contre une sexualité qui aboutirait forcément à un malheur, comme on disait. Malheur et au
déjeuner. Il faudrait aussi regarder du côté des romans sentimentaux comme ceux de Daly, où on trouve énormément de rosières et de personnages de ce type qui ne s'appellent pas du tout comme ça, mais qui sont des ouvrières qui travaillent et qui sont indépendantes.
Alors ça, j'avoue, je ne l'ai pas encore fait.
Et qui sont tout à fait.
Ah, c'est sympa, je vais lire des Daly le soir, c'est une bonne idée.
Il y en a trois ou quatre qui sont typiques.
Je pense que c'est une très bonne
idée. On a le personnage de Génie, qui ne s'appelle pas Génie du tout, qui est une ouvrière indépendante et qui gagne sa vie pauvrement, mais qui est fière de sa condition. Ouais. Donc ça, je pense que ça se trouve dans
ce qui est très grand nombre.
Oui, mais il y a cette idée-là aussi. Hein. Effectivement, c'est de fière de sa condition, c'est quand même pas rien. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une figure un peu ambiguë, parce qu'en même temps, voilà. C'est une jeune femme qui se débrouille. Or, on le sait, beaucoup de jeunes femmes étaient obligées de partir à la ville.
D'un autre côté, c'est aussi une figure qui est en attente d'un prochain mariage, qui va peut-être pas rester comme ça jusqu'à la fin. Enfin, dans un certain imaginaire.
C'est pas du féminisme.
C'est en attendant autre chose. Pour arriver à une condition. Peut-être à descendre, mais de manière noble. Enfin,
même après.
Pas rester génie l'ouvrière à 70 ans.
Mais non, non. Et justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, parce qu'après, il y a aussi ce spectre de la décrépitude qui est décrit avec ces femmes âgées qui n'arrivent plus à coudre en plus. Parce que voilà, il y avait aussi ce problème, qui n'arrivent plus à coudre, qui n'arrivent plus à se nourrir. C'est bien décrit par Marguerite Audoux, par exemple. Hein. Elle en parle de ça.
Oui, ça fait un destin de génie.
Voilà. Bien. Alors j'espère que vous serez là le 20.
Oui, essayez. Merci beaucoup.
On se rafraîchira
ça. C'était passionnant.
Merci. Et donc si vous rencontrez des génies, vous me dites. Voilà.
Ça va être dur. Hein.
Vous avez perdu quelque chose là. Oui, et mon oui pas.
Il faut préciser aussi, c'est que c'est de Courcel, le père du romancier, qui a fait la pierre Adrien de Courcel.
Oui, j'avais remarqué.
Donc, évidemment, c'est après Pierre de Courcel.
Ah non, je ne sais pas, je suis arrivée. Non,
non, on va recommencer tout ça.
C'est aussi le roman.
J'aurais bien voulu prendre mon
avis. Oui, le public, quoi. Avec le mari, tout le monde.
On avait plus de personnages.
Je regarderai.
Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer ça.
Non, mais je vais trouver. C'est amusant de voir.
À bientôt, là.
Oui, bah, je vais en
oui, et puis pour regarder moi, je vais vous faire
des petits papiers. Et puis les
Celui-là.